L'Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité des Pays de la Loire résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans votre Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions de La Roche-sur-Yon, Angers, Nantes, Laval et Le Mans. En Vendée, comme dans de nombreux autres départements de France, les agriculteurs ont manifesté leur opposition aux dernières directives environnementales du gouvernement. Fanny Brevet a recueilli leurs motivations, vous l'entendrez. Autre mobilisation cette semaine, cette fois à l'université d'Angers, fortement déficitaire, sa direction soutenue par l'ensemble des étudiants et des personnels, a reçu une fin de non-recevoir pour obtenir une rallonge de l'État, nous dira Élise Lemaire de RCF Anjou. Jeudi, s'est ouverte la nouvelle campagne de recensement de la population, l'occasion de faire le point sur l'évolution de la population des Pays de la Loire. Ce sera avec Anthony Torzec de Fidélité Nantes. Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne, lui, reviendra sur la journée des migrants qui s'est vécue le week-end dernier, alors que s'ouvre ce week-end la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Enfin, nous irons en Sarthe retrouver Adrien Blanc de RCF Le Mans, qui nous démontrera que l'on peut apprendre à écouter dans le cadre de la semaine du son.
L'Hebdo Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et on commence tout de suite avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Vous nous parlez depuis les studios de la radio qui se situe à La Roche-sur-Yon et qui est sous la neige, comme d'habitude.
Oui, de la neige.
Depuis ce vendredi, le centre-ville de La Roche-sur-Yon, justement, qui a été fortement perturbé mercredi par des centaines de militants de la FDSEA.
Oui, plus de 1000 tracteurs selon les organisateurs, 750 selon la police. Des agriculteurs en colère, notamment contre la directive nitrate et ses conséquences sur les exploitations vendéennes. Éric Porcher, vice-président de la commission environnement à la FDSEA 85.
Le gouvernement voudrait nous imposer une directive nitrate qu'on appelle la directive nitrate 5. Il serait urgent de faire d'abord le bilan de la directive nitrate 4. Et là, on verrait qu'au niveau départemental, la qualité de l'eau, depuis tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs depuis 10 ans, eh bien, on verrait que cette qualité d'eau s'est considérablement améliorée et qu'on est largement en dessous des 50 mg.
Et quant à la question du stockage de l'eau, Éric Porcher, quelles dispositions sont, selon vous, inacceptables ?
Alors, la première, c'est que tout le projet des réserves de substitution qui voit le jour dans le sud Vendée, Madame Bateau a cru bon au départ de son ministère de stopper le travail. Ce n'est pas acceptable du tout. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est concernant le stockage par retenue collinaire dans l'ensemble du département et a fortiori dans la ZRE, la zone de répartition des eaux. On ne peut plus demander aux citoyens de stocker de l'eau dans son jardin pour arroser ses légumes et que l'agriculteur ne puisse pas stocker l'eau qui se gaspille l'hiver, toute cette eau qui s'en va à la mer. Vous vous rendez compte, 20 mm de pluie sur l'ensemble du département, c'est l'équivalent d'une année d'eau potable et d'une année d'irrigation réunie. On vient de prendre 500 mm d'eau, arrêtons de gaspiller cette eau tant qu'on l'a, même en ZRE, c'est possible.
Et une délégation a rencontré le préfet mercredi. Ce dernier s'est montré attentif aux revendications des agriculteurs. Les discussions avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, devraient reprendre à la fin du mois. Deux conditions sont émises par la FDSEA, que les discussions portent sur le bilan de la quatrième directive nitrate et que les projets de réserve d'eau soient réactivés sur l'ensemble du territoire. Parmi les réactions à cette mobilisation des agriculteurs, à noter celle hostile du Parti communiste de Vendée. Dans un communiqué, le PC oppose les revendications des agriculteurs du syndicat agricole majoritaire aux militants qui luttent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des agriculteurs paysans qui, je cite, font de la fraternité et de la solidarité leur valeur de la République. Autre réaction politique, celle de la députée du Bocage, Véronique Besse, qui apporte elle son soutien aux agriculteurs. L'Europe leur en demande toujours plus sans rien proposer pour les accompagner, affirme la parlementaire. Elle précise qu'elle vient d'interpeller le ministre de l'Agriculture lui demandant de résister face à Bruxelles et de défendre les agriculteurs plutôt que leur imposer de nouvelles contraintes.
Politique toujours, Bruno Retailleau, nommé délégué général adjoint au projet de l'UMP aux côtés d'Hervé Mariton.
Et c'est un vaste chantier de refondation qui attend le président départemental de l'UMP, un chantier qui doit s'appuyer sur deux exigences. Les convictions, car pour faire face à la crise, notre pays a besoin plus que jamais de repères stables. Et l'imagination, car dans un monde qui change, l'UMP doit être capable de réinventer le modèle français pour sauver notre pays du déclin. Le président du Conseil général souhaite incarner l'audace intellectuelle et le courage de sortir des sentiers battus.
Et on parle maintenant de justice. Le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a fait sa rentrée solennelle mardi.
Et à cette occasion, Hervé Lolic, le procureur de la République, a rappelé que la Vendée est toujours parmi les 20 départements les plus sûrs de France. Petit bémol quand même, la recrudescence de 13% des atteintes aux personnes, recrudescence due en partie à l'augmentation des violences sexuelles et familiales. Autre délit en augmentation, les cambriolages et plus particulièrement les vols de métaux. On termine avec cette information. Alain Gérard, directeur du Centre Vendéen de Recherches Historiques, élevé au grade de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Ce chercheur à l'Université de Paris 4, la Sorbonne, fait partie de la dernière promotion de l'année 2012.
Merci beaucoup Fanny Brevet pour cette actualité de la Vendée et bon bonhomme de neige si la neige tient de votre côté.
On va essayer.
Bon week-end.
Bon week-end.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et après la Vendée, direction le Maine-et-Loire, où nous retrouvons Élise Lemaire de RCF Anjou. Bonjour Élise.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Ici aussi, les agriculteurs n'ont pas raté l'occasion de manifester contre les choix environnementaux du gouvernement. Il faut dire que l'occasion était trop belle.
En effet, puisqu'ils ont pu le dire directement au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, venu mardi à Angers inaugurer le salon professionnel du végétal Le Cival. Une centaine de manifestants FDSEA et JIA ont profité de son départ en gare d'Angers pour déjouer par surprise les forces de sécurité qui accompagnaient le ministre et lui faire entendre leur mécontentement sur les questions de l'épandage ou la mise en zone vulnérable de certaines parcelles.
Autre mobilisation qui a marqué fortement la semaine, celle des étudiants et des personnels de l'Université d'Angers.
Oui, ils étaient entre 1000 et 1500 personnes à manifester leur soutien mercredi matin à la direction de l'Université d'Angers dans son bras de fer financier avec l'État. L'université déficitaire de près de 4 millions d'euros et l'une des plus sous-dotées de France demande depuis près d'un mois à ce que la subvention de l'État soit revue à la hausse de moins 1,5 million d'euros, faute de quoi elle ne pourra toujours pas boucler son budget 2013 ni garantir son plan de retour à l'équilibre d'ici 3 ans. Une mobilisation de toutes les composantes du monde universitaire qui ne s'était pas vue sur Angers depuis plus de 40 ans. Le ministère a cependant répondu le soir même par une fin de non-recevoir, refusant de donner 1 euro de plus. Une nouvelle qui a laissé amer le président de l'université, Jean-Paul Saint-André, comme il nous le disait au téléphone jeudi soir.
Ma première réaction a été celle d'une très grande déception, puisque nous pensions arriver avec un plan de retour à l'équilibre qui pouvait être acceptable pour le ministère, compte tenu de la situation financière de l'université et, bien entendu, représentant pas mal d'efforts de la part de la communauté universitaire dans le contexte économique du pays que l'on connaît. Donc une très grande déception.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ?
Nous sollicitons d'une part une aide du ministère dans des modalités différentes de celles qu'on avait imaginées au départ. Et d'autre part, nous proposons de faire de notre côté un effort sur quelques postes supplémentaires sans pour autant amputer notre offre de formation. Donc nous avons travaillé et nous venons de terminer une réunion avec les directeurs de composantes pour valider ce plan.
Vous fixez une date d'échéance, une date butoir ?
Oui, les échéances sont maintenant très proches puisque en particulier le prochain conseil d'administration est programmé le 31 janvier et je pense qu'il faut qu'on ait des réponses aux questions que nous avons posées au ministère ce soir et aux propositions que nous allons faire avant le 31 janvier.
Voilà, et rappelons que si rien ne bouge au-delà de la date butoir, l'institution angevine pourrait se voir placée sous tutelle.
Le CHU d'Angers, lui, se porte bien.
Oui, à l'aube de cette nouvelle année, le premier employeur public du Maine-et-Loire, avec 6000 employés, présente en effet un bilan de santé plus que favorable dans ses constantes. Un budget à l'équilibre, un recrutement toujours en progression et une modernisation des bâtiments qui se poursuit. Fait particulier, 2012 aura été l'année des records. Il a réalisé l'an passé pas moins de 4290 18 naissances, faisant d'Angers l'une des 10 plus grosses maternités de France. Et autre record battu, celui de l'affluence aux urgences, près de 50 000 en un an, du jamais vu sur Angers. Le CHU qui s'apprête à concrétiser dans les semaines à venir une communauté hospitalière de territoire qui réunira tous les hôpitaux publics du Maine-et-Loire et de Mayenne autour du CHU d'Angers. Une démarche inédite en France à l'échelle de 2 départements dont le but est de renforcer la complémentarité des 7 structures.
Nous en reparlerons dans un prochain Hebdo Région. Le meurtrier présumé d'une sexagénaire égorgée à Angers a finalement été mis en examen.
Oui, pour assassinat et tentative de meurtre sur la personne de 3 policiers. L'Angevin a reconnu connaître la victime ayant bénéficié de l'hospitalité de l'association dans laquelle elle travaillait il y a quelques années. Il reprochait à la structure le fait d'avoir contracté contracter le virus du sida en l'ayant logé il y a quelques années dans la même chambre qu'un jeune séropositif. Les analyses de sang réalisées au CHU ont pourtant montré qu'il n'était pas porteur du VIH. Les psychiatres lui reconnaissent une conviction quasi hypochondriaque et un comportement peu coopératif. Le jeune homme de 29 ans qui reconnaît un esprit de vengeance réfute toutefois d'avoir prémédité son acte, ayant croisé sa victime par hasard en sortant du marché. Les explications auraient alors dégénéré. Et puisque tout à l'heure on parlait de chiffres, si le Maine-et-Loire connaît lui aussi une augmentation des crimes et délits avec plus de 1000 cas traités en plus l'an passé par le tribunal de grande instance. Côté sécurité routière, le département n'a jamais connu aussi peu de morts sur les routes. 25 en 2012, deux fois moins qu'il y a deux ans.
Et on termine avec un mot de basket.
Oui, avec une bonne nouvelle pour Cholet. L'équipe de ProA s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un dernier espoir pour elle de relever le palmarès de la saison actuellement difficile. Et dernièrement encore, elle n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de l'Eurocoupe ni de la Leader Cup.
Merci Élise, à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Troisième étape de cette Hebdo-Région, direction Nantes, où nous retrouvons Anthony Torzek de Fidélité Nantes. Bonjour Anthony.
Bonjour Damien et bonjour à toutes et à tous.
Et on commence l'actualité de la Loire-Atlantique avec le tribunal de commerce de Nantes qui a réalisé un point sur l'économie de 2012.
Oui, c'est le cas chaque année avec l'audience solennelle du début d'année. On fait un bilan de l'activité économique sur le département l'année passée. Eh bien, une bonne nouvelle sur le plan économique et social. Moins de salariés ont été touchés par des fermetures d'entreprises l'année dernière sur l'agglomération nantaise. C'est ce qui ressort donc de cette audience solennelle du tribunal de commerce de Nantes lundi dernier. Ces procédures ont touché 1900 salariés en 2012 contre 2008 en 2011. En revanche, le nombre de liquidations judiciaires a augmenté, passant de 458 en 2011 à 499 en 2012. Une bonne situation économique qui a sûrement justement des conséquences aussi sur la démographie. Nous sommes dans les Pays de la Loire, 3 630 000 habitants au 1er janvier 2012. Ce sont les derniers chiffres du recensement dévoilés cette semaine par l'INSEE. Entre 2006 et 2012, la région a gagné 30 000 habitants chaque année. Elle se place au troisième rang national en termes de gains démographiques. Et la Loire-Atlantique et la Vendée sont les départements les plus dynamiques en la matière. Agnès Le Renard est responsable du recensement à l'INSEE des Pays de la Loire.
Tous les départements de la région connaissent une croissance démographique, mais cette croissance est plus ou moins importante. Donc elle est particulièrement importante en Vendée et en Loire-Atlantique. Elle est plus modérée sur les trois autres départements que sont la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Mais pour ces trois départements, nous sommes dans la moyenne nationale.
Donc plus d'habitants pour la Loire-Atlantique et la Vendée, ça s'explique comment ?
Alors peut-être une certaine attractivité du littoral, puisque ce phénomène se retrouve en fait finalement sur pratiquement toutes les régions du littoral, hein, une attractivité, un solde migratoire positif, et puis très vraisemblablement aussi par un tissu économique dynamique et un taux de chômage moins important que sur les autres régions de France.
Et la Loire-Atlantique alors ?
Alors la croissance en Loire-Atlantique entre 1999 et 2010 est de 1,1%, donc c'est une croissance importante. La croissance en Loire-Atlantique, elle est équilibrée et repose à la fois sur un solde naturel, c'est-à-dire sur l'excédent des naissances sur les décès et sur un solde migratoire, donc l'excédent des arrivées sur les départs.
Agnès Le Renard, responsable du recensement à l'INSEE des Pays de la Loire, l'INSEE qui a lancé également jeudi une nouvelle campagne de recensement de la population. Autre chiffre dévoilé également par l'INSEE cette semaine, les Pays de la Loire, la région la plus féconde de France métropolitaine. Selon les chiffres de l'INSEE, on fait en moyenne 2,1 enfants par femme dans les Pays de la Loire. Il y a 15 ans, l'indice de fécondité était de 1,7, donc nous faisons de plus en plus de bébés, c'est une bonne nouvelle. L'âge moyen à l'accouchement a augmenté, 26 ans en 1977, 30 ans aujourd'hui.
Et dans le reste de l'actualité de la Loire-Atlantique, un nouveau lycée, des agriculteurs en colère, là encore, et des perquisitions des bureaux de Nantes Métropole.
Oui, on commence avec le lycée, 1600 élèves. Le futur lycée public construit sur l'île de Nantes pourra accueillir 1600 élèves. La première pierre de l'établissement a été posée jeudi. Ce lycée ouvrira ses portes en septembre 2014. Il remplacera en fait deux lycées nantais. Il sera avant tout placé sous le signe lobbying de l'international. Et puis vous l'avez entendu également dans cette hebdo région, manifestation d'agriculteurs hein, cette semaine sur l'ensemble de la région et en France aussi. Environ 150 agriculteurs ont répondu mercredi à Nantes à l'appel de la FNSEA, une journée nationale de mobilisation contre, vous l'avez entendu, la multiplication des réglementations écologiques. Une mobilisation qui intervient, et ce n'est pas un hasard, deux semaines avant les importantes élections dans les chambres d'agriculture. Et puis, perquisition, oui, dans les bureaux de Nantes Métropole, la brigade financière de la police judiciaire a effectué cette perquisition mardi matin dans le cadre d'une enquête sur un ex-agent de Nantes Métropole, un agent qui se trouve aujourd'hui à la mairie de La Roche-sur-Yon. Une information judiciaire pour corruption, favoritisme et trafic d'influence a été ouverte à l'encontre de cet homme, ex-ingénieur des services d'assainissement de la communauté urbaine. Avant son départ pour la mairie de La Roche-sur-Yon, cet homme avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec suspension de sa fonction à Nantes Métropole. Voilà pour l'actualité en Loire-Atlantique, Damien.
Merci beaucoup, Anthony. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Samuel Pécaud, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On vous retrouve depuis les studios de Fidélité Mayenne à Laval pour nous parler de l'actualité de votre département. Et pour commencer, vous revenez sur la journée internationale des migrants qui s'est tenue lundi dernier.
Oui Damien, parce qu'à cette occasion, les cinq évêques des Pays de la Loire ont fait une déclaration commune dans laquelle ils nous invitent, je cite, à changer de regard sur les personnes migrantes et réfugiées. En rappelant dans cette déclaration commune, je cite toujours, que souvent la migration s'impose aux personnes pour des raisons de survie ou pour se protéger des guerres et des persécutions. Alors nous avons ici en Mayenne un centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association France Terre d'Asile. Et comme les cinq évêques ligériens disent aussi dans cette déclaration toute leur reconnaissance et leur encouragement à ceux qui consacrent leur temps, leur force à l'accueil et la prise en charge des migrants parmi nous, nous avons demandé à Angélique Houdou, la directrice de ce centre, de nous expliquer sa mission dans l'accueil des migrants.
C'est une culture chez nous que d'accueillir les autres. Alors au niveau de l'association, France Terre d'Asile existe depuis 1960. Et cette association a été créée lors du coup d'État de Pinochet pour l'accueil des Chiliens qui venaient se réfugier chez nous. On est installé depuis 11 ans sur le département de la Mayenne avec d'abord l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile sur la ville de Mayenne. Et puis petit à petit, on a réparti, on va dire, les hébergements des familles, soit au travers du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, soit au travers de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Donc aujourd'hui, on a des familles qui sont hébergées sur Mayenne, bien sûr, mais également sur Laval et sur Château-Gontier et aussi sur Saint-Berthevin et Évron. Donc nous accueillons tous les demandeurs d'asile et nous leur délivrons ce qu'on appelle une domiciliation postale pour aller faire leur demande officielle de demande d'asile auprès de la préfecture de région à Nantes.
Alors vous suivez l'actualité de près, j'imagine. Est-ce que vous sentez, quand il y a un conflit dans le monde, des répercussions dans l'arrivée de migrants en Mayenne ?
Oui, on a effectivement la répercussion que les gens, dès que les choses se gâtent un peu dans leur pays et qu'ils craignent pour leur vie, fuient le pays en question. On peut penser par exemple qu'au niveau du Mali, compte tenu de ce qui se passe actuellement, on pourrait voir arriver différents migrants qui seront obligés de quitter le pays.
Pour terminer, dans cette période de crise en Europe, beaucoup critiquent cet accueil des migrants prévu par la Convention de Genève de 1949. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Moi, je pense qu'on doit continuer de défendre la valeur et la tradition de l'accueil des demandeurs d'asile dans notre pays. Il est bon qu'on puisse étudier leur demande d'asile dans les meilleures conditions et que cette procédure aille jusqu'au bout. Soit on obtient un statut de réfugié et dans ces cas-là, on peut rester sur le territoire et on est protégé. Soit on n'obtient pas de statut et dans ces cas-là, on est débouté de sa demande sauf dans des situations particulières avec des problématiques de santé ou autres, eh bien les gens doivent pouvoir repartir dans leur pays d'origine.
Dans le reste de l'actualité, Laval toujours à la pointe en termes de réalité virtuelle.
C'est vrai que depuis 15 ans, la ville mise beaucoup sur ses secteurs d'avenir. D'ailleurs, la 15e édition du salon Laval Virtual, la rencontre européenne de la réalité virtuelle, se tiendra à Laval du 20 au 24 mars prochain. Elle attire chaque année 15 000 visiteurs, dont près de 5 000 professionnels du secteur secteurs venus du monde entier. On aura l'occasion d'en reparler. Parce que l'actualité, c'est que Clarté, le centre de réalité virtuelle de Laval, vient d'être retenu par le ministère de l'Éducation nationale comme chef de file de son projet e-learning, c'est-à-dire de mise en place de cours à distance sur le principe de la visioconférence. À noter aussi que Jacques Auxiette, le président du conseil régional, était à Laval ce vendredi et il a confirmé le soutien financier de la région à la construction de la cité de la réalité virtuelle.
Pour terminer, Samuel, le traditionnel pèlerinage de Pontmain a encore attiré de nombreux pèlerins en Mayenne cette semaine.
Oui, jeudi, plus de 2000 catholiques de l'Ouest s'étaient donné rendez-vous au sanctuaire de Pontmain dans le Nord Mayenne pour fêter le 142e anniversaire de l'apparition de la Vierge à quatre enfants le 17 janvier 1871. Au programme de la journée notamment, une messe solennelle présidée par Mgr Pascal Winzer, l'évêque de Poitiers. Et dimanche, comme chaque année, une cérémonie sera organisée à Laval pour commémorer la bataille de Sainte-Mélaine du 18 janvier 1871, qui fut la dernière bataille de la guerre de 1870 contre les Allemands. Beaucoup font le lien entre les deux événements, l'apparition de la Vierge quand les Prussiens étaient aux portes de Laval, et la fin de cette guerre donc, puisque l'armistice a été signé seulement 11 jours plus tard et les Allemands ne sont jamais entrés dans Laval. Alors, plus joyeusement, dans ces relations franco-allemandes, on célébrera lundi le 50e anniversaire du traité de l'Elysée qui a scellé la réconciliation des deux peuples le 22 janvier 1963. Et en Mayenne, l'amitié franco-allemande n'est pas seulement une belle idée, on la vit concrètement. C'est en effet près d'une commune sur six qui est jumelée avec une homologue allemande, principalement dans le Bezirk de Souabe, en Bavière.
Merci beaucoup Samuel, bon week-end à vous.
Merci Damien et à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Dernière halte dans ce tour de l'Hebdo Région, direction Le Mans, où nous retrouvons Adrien Blanc de RCF Le Mans. Bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Alors en tant que professionnel de la radio, nous ne pouvions pas passer à côté de la semaine du son. Elle a lieu en ce moment dans toute la France. On peut assister à des concerts, des conférences ou bien encore des ateliers. Adrien Blanc, vous êtes rendu chez un consultant, Tomatis. Il propose de nous apprendre à mieux écouter.
Et oui, la plupart du temps, quand on n'a pas écouté, c'est parce qu'on pensait à autre chose, mais cela peut être aussi parce que le cerveau refusait d'entendre. C'est en tout cas ce qu'affirme Pascal Gerhardt, diplômé en sciences de l'éducation. Il est consultant au centre Tomatis du Mans, c'est un cabinet qui vous propose de vous apprendre à écouter. Pascal Gerhardt vous met un casque sur les oreilles, un casque qui vibre, et il vous fait écouter de la musique ou bien lire une histoire. Non, ce n'est pas une blague, l'objectif c'est de débloquer votre cerveau.
En fonction effectivement de l'histoire de notre vie, l'histoire de notre corps, notre cerveau a mis des protections sur des choses qu'il ne veut plus entendre, ne veut plus nous faire entendre, soit parce qu'elles sont pas très agréables, soit parce qu'elles sont attachées à des mauvais souvenirs, soit parce qu'elles sont carrément attachées à des douleurs corporelles. Et donc la difficulté, c'est que le cerveau oublie d'enlever ces protections quand elles n'ont plus lieu d'être. Et quand on dit de quelqu'un qui n'entend bien que ce qu'il veut, c'est exactement ça, c'est parce que son cerveau occulte certaines choses.
Et comment est-ce que vous allez aider une personne à retrouver toute l'amplitude de son écoute, pouvoir entendre des sons qu'on avait perdus? C'est grâce à ces machines, à ces ordinateurs. Donc on met un casque sur les oreilles et ensuite...
Alors c'est un peu plus complexe que ça, puisque en fait notre perception sonore, elle commence d'abord par une perception osseuse. Donc effectivement, on va travailler avec des casques trois voix, avec une voix osseuse et deux voix aériennes, donc qui vont être sur les oreilles comme les casques traditionnels.
La voix osseuse, on précise, c'est l'arc du casque en fait qui fait vibrer le crâne.
Alors on va avoir avec le système, je dirais, qui a été mis au point par Tomatis, un système de bascule, c'est-à-dire que il va y avoir des stimuli qui vont être provoqués avec des variations de fréquence, avec des variations de rythme qui vont permettre de remettre en œuvre justement ces chaînes neuronales qui étaient devenues soit paresseuses, soit volontairement oubliées. Certaines fonctions.
Et le centre Tomatis du Mans propose des ateliers gratuits la semaine prochaine. Pour savoir ce qui est organisé chez vous à l'occasion de cette semaine du son, rendez-vous sur le site internet lasemainedusson.org.
Alors dans un tout autre domaine, la guerre de la France au Mali mobilise les soldats du 2e RIMA.
Oui, une compagnie du 2e régiment d'infanterie de marine basée à Champagné dans la Sarthe a été déployée au nord de Bamako. Des élus de la Sarthe ont dit leur soutien aux soldats à l'occasion des vœux et le chef de corps, le colonel Paca, a remercié les Manceaux et les citoyens pour leur, je cite, « indéfectible amitié ». Un convoi de déchets nucléaires a traversé la Sarthe mercredi matin. C'est en tout cas ce qu'affirme le réseau Sortir du nucléaire. Il serait passé aux alentours de 7h du matin par les gares de Château-du-Loir, Le Mans, puis Alençon, direction La Hague, où les déchets doivent être traités dans l'usine Areva.
Côté emploi, la prudence règne après l'annonce de 7500 suppressions de postes chez Renault en France dans les 300 qui viennent.
Oui, le gouvernement, mais aussi les syndicats, se gardent de réagir trop vivement. Ainsi, mercredi au Mans, la CGT avait fait passer un simple message aux 2000 salariés de l'usine. Débrayage d'une heure et rassemblement devant l'entrée. Plus de 100 salariés ont répondu à l'appel. Une mobilisation plus tendue par contre mardi soir au Mans. Près de 200 tracteurs ont convergé vers la préfecture pour manifester contre le durcissement des réglementations européennes, notamment les normes environnementales. Et certains ont jeté des détritus sur les forces de l'ordre. Le préfet a fini par recevoir une délégation des syndicats FDSEA et JA.
Et on termine avec les 24 heures du Mans. Des Chinois souhaitent participer à la course.
Oui, l'équipe KCMG vient d'acheter une voiture prototype LMP2. KCMG est basée à Hong Kong et elle a annoncé qu'elle allait demander à participer aux 24 heures du Mans 2013. Une autre équipe connue est aussi candidate, celle de Sébastien Loeb, lui qui est 9 fois champion du monde de rallye automobile.
Merci beaucoup Adrien Blanc pour cette actualité de la Sarthe. Bon week-end à vous.
Bon week-end, à la semaine prochaine.
C'est la fin de cette hebdo région réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.